À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour ou bonsoir. À voix lue vous propose un cheminement aux côtés de la philosophe française Simone Veil, dont on célèbre cette année 2009 le centenaire de la naissance. Un cheminement aux côtés de sa découverte, de son expérience de la condition ouvrière. Une condition dans laquelle Simone Veil s'immergea volontairement, délaissant sa chaire de philosophie. La comédienne Lara Guerrao a opéré toute une sélection de textes de Simone Veil, des textes publiés chez Gallimard dans la collection Quarto et dans un livre intitulé Simone Veil, signé Florence de Lucie.
Lettre à un ingénieur directeur d'usine, 1936. Bourges, le 13 janvier 1936. Monsieur, je ne peux pas dire que votre réponse m'ait étonné. J'en espérais une autre, mais sans trop y compter. Je n'essaierai pas de défendre le texte, un appel aux ouvriers de Rosières, que vous avez refusé. Si vous étiez catholique, je ne résisterais pas à la tentation de vous montrer que l'esprit qui inspirait mon article et qui vous a choqué n'est pas autre chose que l'esprit chrétien pur et simple. Je crois que cela ne me serait pas difficile. Mais je n'ai pas lieu d'user de tels arguments avec vous. D'ailleurs, je ne veux pas discuter, vous êtes le chef et vous n'avez pas à rendre compte de vos décisions. Je veux seulement vous dire que la tendance qui vous a semblé inadmissible avait été développée par moi à dessein et de propos délibérés. Vous m'avez dit, je répète vos propres termes, qu'il est très difficile d'élever les ouvriers. Le premier des principes pédagogiques, c'est que pour élever quelqu'un, enfant ou adulte, il faut d'abord l'élever à ses propres yeux. C'est 100 fois plus vrai encore quand le principal obstacle au développement réside dans des conditions de vie humiliantes. Ce fait constitue pour moi le point de départ de toute tentative efficace d'action auprès des masses populaires et surtout des ouvriers d'usine. Et je le comprends bien, c'est précisément ce point de départ que vous n'admettez pas. Dans l'espoir de vous le faire admettre et parce que le sort de 800 ouvriers est entre vos mains, je m'étais fait violence pour vous dire sans réserve ce que mon expérience m'avait laissé sur le cœur. J'ai dû faire un pénible effort sur moi-même pour vous dire de ces choses qu'il est à peine supportable de confier à ses égaux, dont il est intolérable de parler devant un chef. Il m'avait semblé vous avoir touché, mais j'avais sans doute tort d'espérer qu'une heure d'entretien puisse l'emporter sur la pression des occupations quotidiennes. Commander ne rend pas facile de se mettre à la place de ceux qui obéissent. À mes yeux, la raison d'être essentielle de ma collaboration à votre journal résidait dans le fait que mon expérience de l'an passé me permet peut-être d'écrire de manière à alléger un peu le poids des humiliations que la vie impose, jour par jour, aux ouvriers de Rosières, comme à tous les ouvriers des usines modernes. Ce n'est pas là le seul but, mais c'est, j'en suis convaincue, la condition essentielle pour élargir leur horizon. Rien ne paralyse plus la pensée que le sentiment d'infériorité, nécessairement imposé par les atteintes quotidiennes de la pauvreté, de la subordination, de la dépendance. La première chose à faire pour eux, c'est de les aider à retrouver ou à conserver, selon le cas, le sentiment de leur dignité. Je ne sais que trop combien il est difficile dans une pareille situation de conserver ce sentiment et combien tout appui moral peut être alors précieux. J'espérais de tout mon cœur pouvoir, par ma collaboration à votre journal, apporter un petit peu un tel appui aux ouvriers de Rosières. Je ne crois pas que vous vous fassiez une idée exacte de ce qu'est au juste l'esprit de classe. À mon avis, il ne peut guère être excité par de simples paroles prononcées ou écrites. Il est déterminé par les conditions de vie effectives. Les humiliations, les souffrances imposées, la subordination le suscitent. La pression inexorable et quotidienne de la nécessité ne cesse pas de le réprimer, et souvent au point de le tourner en servilité, chez les caractères les plus faibles. En dehors de moments exceptionnels qu'on ne peut, je crois, ni amener, ni éviter, ni même prévoir, la pression de la nécessité est toujours largement assez puissante pour maintenir l'ordre, car le rapport de force n'est que trop clair. Mais si l'on pense à la santé morale des ouvriers, le refoulement perpétuel d'un esprit de classe, qui couve toujours sourdement à un degré quelconque, va presque partout beaucoup plus loin qu'il ne serait souhaitable. Donner parfois expression à cet esprit, sans démagogie bien entendu, ce ne serait pas l'exciter, mais au contraire en adoucir l'amertume. Pour les malheureux, Leur infériorité sociale est infiniment plus lourde à porter du fait qu'ils la trouvent présentée partout comme quelque chose qui va de soi. Surtout, je ne vois pas comment des articles comme le mien pourraient avoir mauvais effet, étant publiés dans votre journal. Dans tout autre journal, ils pourraient à la rigueur sembler tendre à dresser les pauvres contre les riches, les subordonnés contre les chefs, mais paraissant dans un journal contrôlé par vous, un tel article peut seulement donner aux ouvriers le sentiment qu'on fait un pas vers eux, qu'on fait effort pour les comprendre. Je pense qu'ils vous en sauraient gré. Je suis convaincue que si les ouvriers de Rosières pouvaient trouver dans votre journal des articles vraiment faits pour eux, ou soient soigneusement ménagés toute leur susceptibilité, car la susceptibilité des malheureux est vive, quoique muette, ou soient développés tout ce qui peut les élever à leurs propres yeux, il n'en résulterait que du bien, à tous les points de vue. Ce qui peut au contraire raviver l'esprit de classe, ce sont les phrases malheureuses qui, par l'effet d'une cruauté inconsciente, mettent indirectement l'accent sur l'infériorité sociale des lecteurs. Ces phrases malheureuses sont nombreuses dans la collection de votre journal. Je vous les signalerai à la prochaine occasion, si vous le désirez. Peut-être est-il impossible d'avoir du tact vis-à-vis de ces gens-là quand on se trouve depuis trop longtemps dans une situation trop différente de la leur. Par ailleurs, il se peut que les raisons que vous me donnez pour écarter mes deux suggestions soient tout à fait justes. La question est d'ailleurs relativement secondaire. Je vous remercie de m'avoir envoyé les derniers numéros du journal. Je m'abstiendrai de venir vous voir à Rosières, pour la raison que je vous ai donnée, si vous restez disposée à m'y prendre comme ouvrière. Mais j'ai lieu de croire que vos dispositions à mon égard sont changées. Un tel projet pour réussir exige un degré fort élevé de confiance et de compréhension mutuelle. Si vous n'êtes plus disposée à m'embaucher, je viendrai certainement à Rosières, comme vous voulez bien m'y autoriser. Dès que j'en trouverai le temps, je vous préviendrai à l'avance. Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués, Simone Veil. La vie et la grève des ouvriers métallos, 1936. Enfin, on respire. C'est la grève chez les métallos. Le public qui voit tout ça de loin ne comprend guère. Qu'est-ce que c'est ? Un mouvement révolutionnaire ? Mais tout est calme. Un mouvement revendicatif ? Mais pourquoi si profond, si général, si fort et si soudain ? Quand on a certaines images enfoncées dans l'esprit, dans le cœur, dans la chair elle-même, on comprend. On comprend tout de suite. Je n'ai qu'à laisser affluer les souvenirs. Un atelier, quelque part dans la banlieue. Un jour de printemps, pendant ces premières chaleurs si accablantes pour ceux qui peinent. L'air est lourd d'odeurs de peinture et de vernis. C'est ma première journée dans cette usine. Elle m'avait paru accueillante la veille. Au bout de toute une journée passée à arpenter les rues, à présenter des certificats inutiles, enfin ce bureau d'embauche avait bien voulu de moi. Comment se défendre au premier instant d'un sentiment de reconnaissance ? Me voici sur une machine. Compter 50 pièces, les placer une à une sur la machine, d'un côté, pas de l'autre. Manier à chaque fois un levier, ôter la pièce, en mettre une autre, compter encore. Je ne vais pas assez vite. La fatigue se fait déjà sentir. Il faut forcer, empêcher qu'un instant d'arrêt sépare un mouvement du mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite. Allons bon, voilà une pièce que j'ai mise au mauvais côté. Qui sait si c'est la première ? Il faut faire attention. Cette pièce est bien placée, celle-là aussi. Combien est-ce que j'en ai fait ces 10 dernières minutes ? Je ne vais pas assez vite, je force encore. Peu à peu, la monotonie de la tâche m'entraîne à rêver. Pendant quelques instants, je pense à bien des choses. Réveil brusque. Combien est-ce que j'en ai fait ? Ça ne doit pas être assez, ne pas rêver, forcer encore. Si seulement je savais combien il faut en faire. Je regarde autour de moi, personne ne lève la tête, jamais. Personne ne sourit, personne ne dit un mot, comme on est seul. Je fais 400 pièces à l'heure, savoir si c'est assez. Pourvu que je tienne à cette cadence, au moins. La sonnerie de midi, enfin, tout le monde se précipite à la pendule de pointage, au vestiaire, hors de l'usine. Il faut aller manger. J'ai encore un peu d'argent, heureusement. Mais il faut faire attention. Qui sait si on va me garder ici ? Je ne chômerai pas encore des jours et des jours. Il faut aller dans un de ces restaurants sordides qui entourent les usines. Ils sont chers d'ailleurs. Certains plats semblent assez tentants, mais ce sont d'autres qu'il faut choisir. Les meilleurs marchés. Manger coûte un effort encore. Ce repas n'est pas une détente. Quelle heure est-il ? Il reste quelques moments pour flâner, mais sans s'écarter trop. Pointer une minute en retard, c'est travailler une heure sans salaire. L'heure avance. Il faut rentrer. Voici ma machine. Voici mes pièces. Il faut recommencer. Allez vite. Je me sens défaillir de fatigue et d'écœurement. Quelle heure est-il ? Encore 2 heures avant la sortie. Comment est-ce que je vais pouvoir tenir ? Voilà que le contremaître s'approche. Combien en faites-vous ? 400 à l'heure ? Il en faut 800. Sans quoi je ne vous garderai pas. Si à partir de demain vous en faites 800, je consentirai peut-être à vous garder. Il parle sans élever la voix. Pourquoi élèverait-il la voix quand d'un mot il peut provoquer tant d'angoisse? Que répondre? Je tâcherai, forcer encore, vaincre à chaque seconde ce dégoût, cet écœurement qui paralyse, plus vite. Il s'agit de doubler la cadence. Combien en ai-je fait au bout d'une heure? 600, plus vite. Combien au bout de cette dernière heure? 650, la sonnerie, pointée, s'habiller, sortir de l'usine, le corps vidé de toute énergie vitale, l'esprit vide de pensée, le cœur submergé de dégoût, de rage muette, et par-dessus tout cela, d'un sentiment d'impuissance et de soumission. Car le seul espoir pour le lendemain, c'est qu'on veuille bien me laisser passer encore une pareille journée. Quant aux jours qui suivront, c'est trop loin. L'imagination se refuse à parcourir un si grand nombre de minutes mornes. Le lendemain, on veut bien me laisser me remettre à ma machine, quoique je n'ai pas fait la veille les 800 pièces exigées, mais il va falloir les faire ce matin, plus vite. Voilà le contremaître. Qu'est-ce qu'il va me dire? Arrêtez, j'arrête. Qu'est-ce qu'on me veut? Me renvoyer? J'attends un ordre. Au lieu d'un ordre, il vient une sèche réprimande, toujours sur le même ton, bref. Dès qu'on vous dit d'arrêter, il faut être debout pour aller sur une autre machine. On ne dort pas ici. Que faire? Me taire. Obéir. Immédiatement. Aller immédiatement à la machine qu'on me désigne. Exécuter docilement les gestes qu'on m'indique. Pas un mouvement d'impatience. Tout mouvement d'impatience se traduit par de la lenteur ou de la maladresse. L'irritation, c'est bon pour ceux qui commandent. C'est défendu à ceux qui obéissent. Une pièce, encore une pièce. Est-ce que j'en fais assez? Vite, voilà que j'ai failli louper une pièce. Attention, voilà que je ralentis. Vite, plus vite. Quel souvenir encore! Il n'en vient que trop pêle-mêle des femmes qui attendent devant une porte d'usine. On ne peut entrer que dans 10 minutes avant l'heure. Et quand on habite loin, il faut bien venir une vingtaine de minutes en avance pour ne pas risquer une minute de retard. Un portillon est ouvert, mais officiellement ce n'est pas ouvert. Il pleut à torrents. Les femmes sont dehors, sous la pluie, devant cette porte ouverte. Quoi de plus naturel que de s'abriter quand il pleut et que la porte d'une maison est ouverte? Mais ce mouvement si naturel, on ne pense même pas à le faire devant cette usine, parce que c'est défendu. Aucune maison étrangère n'est si étrangère que cette usine où on dépense quotidiennement ses forces pendant 8 heures. Une scène de renvoi. On me renvoie d'une usine où j'ai travaillé 1 mois sans qu'on m'ait jamais fait aucune observation et pourtant on embauche tous les jours. Qu'est-ce qu'on a contre moi? On n'a pas daigné me le dire. Je reviens à l'heure de la sortie, voilà le chef d'atelier, je lui demande bien poliment une explication, je reçois comme réponse « je n'ai pas de compte à vous rendre » et aussitôt il s'en va. Que faire? Un scandale? Je risquerais de ne trouver d'embauche nulle part. Non, m'en aller bien sagement. Recommencer à arpenter les rues, à stationner devant les bureaux d'embauche, et à mesure que les semaines s'écoulent, sentir croître au creux de l'estomac une sensation qui s'installe en permanence et dont il est impossible de dire dans quelle mesure c'est de l'angoisse ou dans quelle mesure de la faim. Quoi encore? Un vestiaire d'usine au cours d'une semaine rigoureuse d'hiver. Le vestiaire n'est pas chauffé. On entre là-dedans. Quelquefois juste après avoir travaillé devant un four, on a un mouvement de recul, comme devant un bain froid, mais il faut entrer, il faut passer là, 10 minutes. Il faut mettre dans l'eau glacée des mains couvertes de coupures, où la chair est à vif. Il faut les frotter vigoureusement avec de la sueur de bois pour ôter un peu d'huile et de poussière noire, 2 fois par jour. Bien sûr, on supporterait des souffrances encore plus pénibles, mais celles-ci sont si inutiles. Se plaindre à la direction? Personne n'y songe un seul instant. Ils se foutent bien de nous. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est bien l'impression qu'ils nous donnent. On ne veut pas risquer de se faire embarrer, plutôt souffrir, tout cela, en silence. C'est encore moins douloureux. Des conversations à l'usine. Un jour, une ouvrière amène au vestiaire un gosse de 9 ans. Les plaisanteries fusent. Tu l'amènes travailler? Elle répond. Je voudrais bien qu'il puisse travailler. Elle a 2 gosses et 1 mari malade à sa charge. Elle gagne bien 3 à 4 francs de l'heure. Elle aspire au moment où enfin ce gosse pourra être enfermé à longueur de journée dans une usine pour apporter quelques sous. Une autre bonne camarade et affectueuse qu'on interroge sur sa famille. Vous avez des gosses? Non, heureusement. C'est-à-dire, j'en avais un, mais il est mort. Elle parle de son mari malade, qu'elle a eu 8 ans à sa charge. Il est mort, heureusement. C'est beau, les sentiments. Mais la vie est trop dure. Des scènes de paix. On défile comme un troupeau devant le guichet, sous l'œil des contremaîtres. On ne sait pas ce qu'on touchera. Il y aura toujours à faire des calculs tellement compliqués que personne ne s'en sort. Et il y a souvent de l'arbitraire. Impossible de se défendre du sentiment que ce peu d'argent qu'on vous passe à travers le guichet est une aumône. La faim. Quand on gagne 3 francs de l'heure, ou même 4 francs, ou même un peu plus, il suffit d'un coup dur, une interruption de travail, une blessure, pour devoir pendant une semaine ou plus travailler en subissant la faim. Pas la sous-alimentation qui peut, elle, se produire en permanence, même sans coup dur. La faim. La faim, jointe à un dur travail physique, c'est une sensation poignante. Il faut travailler aussi vite que d'habitude, sans quoi on ne mangera pas encore assez la semaine suivante. Et par-dessus le marché, on risque de se faire engueuler pour production insuffisante, peut-être renvoyer. Ce ne sera pas une excuse de dire qu'on a faim. On a faim, mais il faut quand même satisfaire les exigences de ces gens, par qui on ne peut, en un instant, être condamné à avoir encore plus faim. Quand on n'en peut plus, on n'a qu'à forcer, toujours forcer. En sortant de l'usine, rentrer aussitôt chez soi pour éviter la tentation de dîner et attendre l'heure du sommeil, qui d'ailleurs sera troublée parce que même la nuit, on a faim. Le lendemain, forcer encore, tous ces efforts. Ils auront leur contrepartie, les quelques billets, les quelques pièces qu'on recevra au travers d'un guichet. Que demander d'autre ? On n'a droit à rien d'autre. On est là pour obéir et se taire. On est au monde pour obéir et se taire. Compter sou par sou, pendant 8 heures de travail, on compte sou par sou. Combien de sous rapporteront ces pièces ? Qu'est-ce que j'ai gagné cette heure-ci et l'heure suivante ? En sortant de l'usine, on compte encore sou par sou. On a un tel besoin de détente que toutes les boutiques attirent. Est-ce que je peux prendre un café ? Mais ça coûte 10 sous. J'en ai déjà pris un hier. Il me reste tant de sous pour la quinzaine. Et ces cerises, elles coûtent tant de sous. On fait son marché. Combien coûtent les pommes de terre ici ? 200 mètres plus loin, elles coûtent 2 sous de moins. Il faut imposer ces 200 mètres à un corps qui se refuse à marcher. Les sous deviennent une obsession. Jamais à cause d'eux, on ne peut oublier la contrainte de l'usine. Jamais on ne se détend. Ou si on fait une folie à l'échelle de quelques francs, on subira la faim. Il ne faut pas que ça arrive souvent. On finirait par travailler moins vite, et par un cercle impitoyable, la faim engendrerait encore plus de faim. Il ne faut pas se faire prendre par ce cercle. Il mène à l'épuisement, à la maladie, à la mort. Car quand on ne peut plus produire assez vite, on n'a plus droit à vivre. Ne voit-on pas les hommes de 40 ans refusés partout, à tous les bureaux d'embauche, quel que soit leur certificat ? À 40 ans, on est compté comme un incapable. Malheur aux incapables. La fatigue. La fatigue accablante, amère, par moments douloureuse, au point qu'on souhaiterait la mort. Tout le monde, dans toutes les situations, sait ce que c'est que d'être fatigué. Mais pour cette fatigue-là, il faudrait un nom à part. Des hommes vigoureux dans la force de l'âge s'endorment de fatigue sur la banquette du métro. Pas après un coup dur, après une journée de travail normale. Une journée comme il y en aura une encore le lendemain, le surlendemain, toujours. En descendant dans la rame de métro, au sortir de l'usine, une angoisse occupe toute la pensée. Est-ce que je trouverai une place assise ? Ce serait trop dur de devoir rester debout ? Mais bien souvent, il faut rester debout. Attention qu'alors l'excès de fatigue n'empêche pas de dormir. Le lendemain, il faudrait forcer encore un peu plus. La peur. Rares sont les moments de la journée où le cœur n'est pas un peu comprimé par une angoisse quelconque. Le matin, l'angoisse de la journée à traverser. Dans les rames de métro qui mènent à Billancourt, vers 6h30 du matin, on voit la plupart des visages contractés par cette angoisse. Si on n'est pas en avance, la peur de la pendule de pointage. Au travail, la peur de ne pas aller assez vite, pour tous ceux qui ont du mal à y arriver. La peur de louper des pièces en forçant sur la cadence, parce que la vitesse produit une espèce d'ivresse qui annule la tension. La peur de tous les menus accidents qui peuvent amener des loupés ou un outil cassé. D'une manière générale, la peur des engueulades. On s'exposerait à bien des souffrances rien que pour éviter une engueulade. La moindre réprimande est une dure humiliation parce qu'on n'ose pas répondre. Et combien de choses peuvent amener une réprimande ? La machine a été mal réglée par un régleur. Un outil est en mauvais acier. Des pièces sont impossibles à bien placer. On se fait engueuler. On va chercher le chef à travers l'atelier pour avoir du boulot. On se fait rembarrer. Si on avait attendu à son bureau, on aurait risqué une engueulade aussi. On se plaint d'un travail trop dur ou d'une cadence impossible à suivre. On s'entend brutalement rappeler qu'on occupe une place que des centaines de chômeurs prendraient volontiers. Mais pour oser se plaindre, il faut véritablement qu'on n'en puisse plus. Et c'est là la pire angoisse. L'angoisse de sentir qu'on s'épuise ou qu'on vieillit, que bientôt on n'en pourra plus. Demander un poste moins dur, il faudrait avouer qu'on ne peut plus occuper celui où on est. On risquerait d'être jeté à la porte. Il faut serrer les dents, tenir, comme un nageur sur l'eau. Seulement avec la perspective de nager toujours jusqu'à la mort. Pas de barque par laquelle on puisse être recueilli. Si on s'enfonce lentement, si on coule, personne au monde ne s'en apercevra seulement. Qu'est-ce que c'est ? Une unité dans les effectifs du travail, on ne compte pas, à peine si on existe. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications. Cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Oui, une joie. J'ai été voir les copains dans une usine où j'ai travaillé il y a quelques mois, j'ai passé quelques heures avec eux. Joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation souriante d'un ouvrier qui garde la porte. Joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternelles. Comme on se sent entre camarades dans ces ateliers, où quand j'y travaillais, chacun se sentait tellement seul sur sa machine. Joie de parcourir librement ces ateliers, où on était rivé sur sa machine, de former des groupes, de causer, de casser la croûte. Joie d'entendre, au lieu du fracas impitoyable des machines, symbole si frappant de la dure nécessité sous laquelle on pliait, de la musique, des chants et des rires. On se promène parmi ces machines auxquelles on a donné pendant tant et tant d'heures le meilleur de sa substance vitale. Et elles se taisent. Elles ne coupent plus les doigts. Elles ne font plus de mal. Joie de passer devant les chefs, la tête haute. On cesse enfin d'avoir besoin de lutter à tout instant pour conserver sa dignité à ses propres yeux. Contre une tendance presque invincible à se soumettre corps et âme. Joie de voir les chefs se faire familiers par force, serrer des mains, renoncer complètement à donner des ordres. Joie de les voir attendre docilement leur tour pour avoir le bon de sortie que le comité de grève consent à leur accorder. Joie de dire ce qu'on a sur le cœur à tout le monde, chefs et camarades, sur ces lieux où deux ouvriers pouvaient travailler des mois côte à côte sans qu'aucun des deux sache ce que pensait le voisin. Joie de vivre parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine, le rythme qui correspond à la respiration, au battement du cœur, au mouvement naturel de l'organisme humain, et non à la cadence imposée par le chronométreur. Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours, mais on n'y pense pas. On est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu'il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois et pour toujours, il flottera, autour de ces lourdes machines, d'autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission. Des souvenirs qui mettront un peu de fierté au cœur, qui laisseront un peu de chaleur humaine sur tout ce métal. On se détend complètement. On n'a pas cette énergie farouchement tendue, cette résolution mêlée d'angoisse, si souvent observée dans les grèves. On est résolu, bien sûr, mais sans angoisse. On est heureux. On chante. Mais pas l'international, pas la jeune garde. On chante des chansons, tout simplement, et c'est très bien. Quelques-uns font des plaisanteries dont on rit pour le plaisir de s'entendre rire. On n'est pas méchant. Bien sûr, on est heureux de faire sentir aux chefs qu'ils ne sont pas les plus forts. C'est bien leur tour. Ça leur fait du bien. Mais on n'est pas cruel. On est bien trop content. On est sûr que les patrons céderont. On croit qu'il y aura un nouveau coup dur au bout de quelques mois, mais on est prêt. On se dit que si certains patrons ferment leurs usines, l'État les reprendra. On ne se demande pas un instant s'il pourra les faire fonctionner aux conditions désirées. Pour tout Français, l'État est une source de richesse inépuisable. L'idée de négocier avec les patrons, d'obtenir des compromis, ne vient à personne. On veut avoir ce qu'on demande. L'avoir, parce que les choses qu'on demande, on les désire, mais surtout parce qu'après avoir si longtemps plié, pour une fois qu'on relève la tête, on ne veut pas céder. On ne veut pas se laisser rouler, être pris pour des imbéciles. Après avoir passivement exécuté tant et tant d'ordres, c'est trop bon de pouvoir enfin, pour une fois, en donner à ceux même de qui on les recevait. Mais le meilleur de tout, c'est de se sentir tellement des frères. Les totalitarismes du siècle, réflexion sur les causes, tableau théorique d'une société libre. Et pourtant, rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. Jamais, quoi qu'il advienne, il ne peut accepter la servitude, car il pense. Il n'a jamais cessé de rêver, une liberté sans limite, soit comme un bonheur passé dont un châtiment l'aurait privé, soit comme un bonheur à venir qui lui serait dû par une sorte de pacte avec une providence mystérieuse. Le communisme imaginé par Marx est la forme la plus récente de ce rêve. Ce rêve est toujours demeuré vain, comme tous les rêves, ou s'il a pu consoler, ce n'est que comme un opium. Il est temps de renoncer à rêver la liberté et de se décider à la concevoir. C'est la liberté parfaite qu'il faut s'efforcer de se représenter clairement, non pas dans l'espoir d'y atteindre, mais dans l'espoir d'atteindre une liberté moins imparfaite que n'est notre condition actuelle. Car le meilleur n'est concevable que par le parfait. On ne peut se diriger que vers un idéal. L'idéal est tout aussi irréalisable que le rêve, mais à la différence du rêve, il a rapport à la réalité. Il permet, à titre de limite, de ranger des situations, ou réelles ou réalisables, dans l'ordre de la moindre à la plus haute valeur. La liberté parfaite ne peut pas être conçue comme consistant simplement dans la disparition de cette nécessité dont nous subissons perpétuellement la pression. Tant que l'homme vivra, c'est-à-dire tant qu'il constituera un infime fragment de cet univers impitoyable, la pression de la nécessité ne se relâchera jamais un seul instant. Un état de choses où l'homme aurait autant de jouissance et aussi peu de fatigue qu'il lui plairait ne peut pas trouver place, sinon par fiction, dans le monde où nous vivons. La nature est, il est vrai, plus clémente ou plus sévère aux besoins humains selon les climats, et peut-être selon les époques. Mais attendre l'invention miraculeuse qui la rendrait clémente partout et une fois pour toutes, c'est à peu près aussi raisonnable que les espérances attachées autrefois à la date de l'an 1000. Au reste, si on examine cette fiction de près, il n'apparaît même pas qu'elle vaille en regret. Il suffit de tenir compte de la faiblesse humaine pour comprendre qu'une vie, d'où la notion même de travail aurait à peu près disparu, serait livrée aux passions et peut-être à la folie. Il n'y a pas de maîtrise de soi sans discipline. Et il n'y a pas d'autre source de discipline pour l'homme que l'effort demandé par les obstacles extérieurs. Un peuple d'oisif pourrait bien s'amuser à se donner des obstacles, s'exercer aux sciences, aux arts, aux jeux. Mais les efforts qui procèdent de la seule fantaisie ne constituent pas pour l'homme un moyen de dominer ses propres fantaisies. Ce sont les obstacles auxquels on se heurte et qu'il faut surmonter qui fournissent l'occasion de se vaincre soi-même. Même les activités en apparence les plus libres, sciences, arts, sports, n'ont de valeur qu'autant qu'elles imitent l'exactitude, la rigueur, le scrupule propre aux travaux, et même les exagèrent. Sans le modèle que leur fournissent, sans le savoir, le laboureur, le forgeron, le marin, qui travaille comme il faut pour employer cette expression d'une ambiguïté admirable, elles sombreraient dans le pur arbitraire. La seule liberté qu'on puisse attribuer à l'âge d'or, c'est celle dont jouiraient les petits-enfants si les parents ne leur imposaient pas de règles. Elle n'est en réalité qu'une soumission inconditionnée aux caprices. Le corps humain ne peut en aucun cas cesser de dépendre du puissant univers dans lequel il est pris. Quand même l'homme cesserait d'être soumis aux choses et aux autres hommes par les besoins et les dangers, il ne serait que plus complètement livré par les émotions qui le saisiraient continuellement aux entrailles et dont aucune activité régulière ne le défendrait plus. Si l'on devait entendre par liberté la simple absence de toute nécessité, ce mot serait vide de toute signification concrète. Mais il ne représenterait pas alors, pour nous, ce dont la privation ôte à la vie sa valeur. Et poésie, la porte. Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers. Nous boirons leur eau froide où la lune a mis sa trace. La longue route brûle, ennemie aux étrangers. Nous errons sans savoir et ne trouvons nulle place. Nous voulons voir des fleurs. Ici, la soif est sur nous. Attendant et souffrant, nous voici devant la porte. S'il le faut, nous romprons cette porte avec nos coups. Nous pressons et poussons, mais la barrière est trop forte. Il faut languir, attendre et regarder vainement. Nous regardons la porte, elle est close, inébranlable. Nous y fixons nos yeux, nous pleurons sous le tourment, nous la voyons toujours. Le poids du temps nous accable. La porte est devant nous, que nous sert-il de vouloir? Il vaut mieux s'en aller, abandonnant l'espérance. Nous n'entrerons jamais, nous sommes là de la voir. La porte, en s'ouvrant, laissa passer tant de silence que ni les vergers ne sont parus, ni nulle fleur. Seul l'espace immense où sont le vide et la lumière fut soudain présent de part en part, combla le cœur et lava les yeux presque aveugles sous la poussière. Plaidoyer pour une civilisation nouvelle, l'enracinement, l'obéissance. L'obéissance est un besoin vital de l'âme humaine. Elle est de deux espèces, obéissance à des règles établies et obéissance à des êtres humains regardés comme des chefs. Elle suppose le consentement, non pas à l'égard de chacun des ordres reçus, mais un consentement accordé une fois pour toutes, sous la seule réserve, le cas échéant, des exigences de la conscience. Il est nécessaire qu'il soit généralement reconnu, et avant tout par les chefs, que le consentement, et non pas la crainte du châtiment ou l'appât de la récompense, constitue en fait le ressort principal de l'obéissance, de manière que la soumission ne soit jamais suspecte de servilité. Il faut qu'il soit connu, aussi que ceux qui commandent obéissent de leur côté, et il faut que toute la hiérarchie soit orientée vers un but dont la valeur et même la grandeur soit sentie par tous, du plus haut au plus bas. L'obéissance étant une nourriture nécessaire à l'âme, quiconque en est définitivement privé est malade. Ainsi, toute collectivité régie par un chef souverain qui n'est comptable à personne se trouve entre les mains d'un malade. C'est pourquoi, là où un homme est placé pour la vie à la tête de l'organisation sociale, il faut qu'il soit un symbole et non un chef, comme c'est le cas pour le roi d'Angleterre. Il faut aussi que les convenances limitent sa liberté plus étroitement que celle d'aucun homme du peuple. De cette manière, les chefs effectifs, quoique chefs, ont quelqu'un au-dessus d'eux. D'autre part, ils peuvent, sans que la continuité soit rompue, se remplacer et par suite recevoir chacun sa part indispensable d'obéissance. Ceux qui soumettent les masses humaines par la contrainte et la cruauté les privent à la fois de deux nourritures vitales, liberté et obéissance. Car il n'est plus au pouvoir de ces masses d'accorder leur consentement intérieur à l'autorité qu'elles subissent. Ce qui favorise un état de choses où l'appât du gain soit le principal mobile enlève aux hommes l'obéissance. Car le consentement, qui en est le principe, n'est pas une chose qui puisse se vendre. Mille signes montrent que les hommes de notre époque étaient depuis longtemps affamés d'obéissance. mais on en a profité pour leur donner l'esclavage. La propriété privée est un besoin vital de l'âme. L'âme est isolée, perdue, si elle n'est pas dans un entourage d'objets qui soit pour elle comme un prolongement des membres du corps. Tout homme est invinciblement porté à s'approprier par la pensée tout ce dont il a fait longtemps et continuellement usage pour le travail, le plaisir ou les nécessités de la vie. Ainsi, un jardinier, au bout d'un certain temps, sent que le jardin est à lui. Mais là où le sentiment d'appropriation ne coïncide pas avec la propriété juridique, l'homme est continuellement menacé d'arrachement très douloureux. La sécurité. La sécurité est un besoin essentiel de l'âme. La sécurité signifie que l'âme n'est pas sous le poids de la peur ou de la terreur, excepté par l'effet d'un concours de circonstances accidentelles et pour des moments rares et courts. La peur ou la terreur, comme état d'âme durable, sont des poisons presque mortels. Que la cause en soit la possibilité du chômage, ou la répression policière, ou la présence d'un conquérant étranger, ou l'attente d'une invasion probable, ou tout autre malheur qui semble surpasser les forces humaines. Les maîtres romains exposaient un fouet dans le vestibule, à la vue des esclaves, sachant que ce spectacle mettait les âmes dans l'état de demi-mort indispensable à l'esclavage. D'un autre côté, d'après les Égyptiens, le juste doit pouvoir dire après la mort « je n'ai causé de peur à personne ». Même si la peur permanente constitue seulement un état latent, de manière à n'être que rarement ressentie comme une souffrance, elle est toujours une maladie. C'est une demi-paralysie de l'âme. La vérité. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Il n'en est pourtant jamais fait mention. On a peur de lire, quand on s'est une fois rendu compte de la quantité et de l'énormité des faussetés matérielles étalées sans honte, même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on boirait l'eau d'un puits douteux. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se livrer à des vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Quel sens cela a-t-il d'alléguer que les auteurs sont de bonne foi ? Eux ne travaillent pas physiquement 8 heures par jour. La société les nourrit pour qu'ils aient le loisir et se donnent la peine d'éviter l'erreur. Un aiguilleur, cause d'un déraillement, serait mal accueilli en alléguant qu'il est de bonne foi. À plus forte raison est-il honteux de tolérer l'existence de journaux dont tout le monde sait qu'aucun collaborateur ne pourrait y demeurer s'il ne consentait parfois à altérer sciemment la vérité. Le public se défie des journaux. Mais sa défiance ne le protège pas. Sachant en gros qu'un journal contient des vérités et des mensonges, il répartit les nouvelles annoncées entre ses deux rubriques, mais au hasard, au gré de ses préférences. Il est ainsi livré à l'erreur. Tout le monde sait que lorsque le journalisme se confond avec l'organisation du mensonge, il constitue un crime. Mais on croit que c'est un crime impunissable. Qu'est-ce qui peut bien empêcher de punir une activité une fois qu'elle a été reconnue comme criminelle ? D'où peut bien venir cette étrange conception de crime non punissable ? C'est une des plus monstrueuses déformations de l'esprit juridique. Ne serait-il pas temps de proclamer que tout crime discernable est punissable et qu'on est résolu, si on en a l'occasion, à punir tous les crimes? Quelques mesures faciles de salubrité publique protégeraient la population contre les atteintes à la vérité. La première serait l'institution pour cette protection de tribunaux spéciaux, hautement honorés, composés de magistrats spécialement choisis et formés. Ils seraient tenus de punir de réprobation publique toute erreur évitable et pourraient infliger la prison et le bagne en cas de récidive fréquente aggravée par une mauvaise foi démontrée. Dans ce système, il serait permis à n'importe qui ayant reconnu une erreur évitable dans un texte imprimé ou dans une émission de radio de porter une accusation devant ces tribunaux. La deuxième mesure serait d'interdire absolument toute propagande de toute espèce par la radio ou par la presse quotidienne. On ne permettrait à ces deux instruments de servir qu'à l'information non tendancieuse. Les tribunaux dont il vient d'être question veilleraient à ce que l'information ne soit pas tendancieuse. Pour les organes d'information, ils pourraient avoir à juger non seulement les affirmations erronées, mais encore les omissions volontaires et tendancieuses. Les milieux où circulent les idées et qui désirent les faire connaître auraient droit seulement à des organes hebdomadaires, bimensuels ou mensuels. Il n'est nullement besoin d'une fréquence plus grande si l'on veut faire penser et non abrutir. Dans tout cela, il n'y aurait pas la moindre atteinte aux libertés publiques. Il y aurait satisfaction du besoin le plus sacré de l'âme humaine, le besoin de protection contre la suggestion et l'erreur.